Salut les marques et salut les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Alors ça y est, c'est l'automne, fini la canicule, mais on est toujours là, on transpire toujours pour commenter chaque semaine, analyser, décortiquer, critiquer les shows de la WWE et consorts. Je suis Raphaël, fidèle au poste, et je retrouve mon tag team de la semaine, mon cher Papy. Comment ça va, Papy?
Bonjour les petits enfants, bonjour Raphaël, comment ça va? Ça va, moi ça va toujours, le samedi au soleil, et c'est une chose qu'on ne verra jamais car il pleut.
Eh ben oui, on ne te verra jamais dans le nord de la France. Voilà, je salue mon papy, faites comme l'a dit Nicolas Bedos, embrassez vos papys, dites-leur bonjour, vivez heureux, et surtout
embrassez-les
suivez...
de loin.
Voilà, suivez la WWE. Non papy, je t'embrasse de loin, tu sais moi je reste dans mon sud alors... Je ne me rapproche pas trop, il n'y a pas de danger pour ça.
Je comprends bien, je te remercie de ton attention.
Eh bien, écoute, est-ce que tu vas bien papy? Est-ce que tu es prêt? On est dans un go home show là, rappelle-nous, qu'est-ce qui nous attend là ce dimanche par hasard?
La messe.
Ah oui, c'est vrai.
C'est téléfoot après, non?
Téléfoot, exactement.
Non, sinon il y a un petit truc Clash of Titans ou Clash of quelque chose, je ne sais plus dire exactement le titre.
Clash of Champions.
Wow.
Clash of Champions, Gold Rush. Alors on nous a pas du tout expliqué ce que ça voulait dire à part.
Ils font la course aux ceintures, donc quelque part c'est l'or, je pense.
Oui, je pense que c'est ça. Ça change pas grand chose de d'habitude. C'est une nouveauté de cette année de Covid. Il y a des sous-titres maintenant. C'était You've Never See It Coming à machin là, et puis
The Horror Show.
The Horror Show, ouais, c'est voilà.
Puis on a vu un Monday Night Raw In Your Face qui était venu de nulle part et qui est reparti nulle part.
C'est vrai, c'est vrai.
Et ça ben là, écoute, total.
Voilà, donc on est SmackDown et on va builder la fin des rivalités pour ce fameux Clash of Champions qui arrive dimanche. Donc nous sommes toujours au Thunderdome et le premier segment d'introduction concerne la ceinture intercontinentale, ou plutôt les ceintures intercontinentales, puisqu'il y en a deux, il y a deux gars qui se baladent avec. Donc il y a Sami Zayn, qui se considère champion non reconnu puisqu'il est parti 6 mois en vacances, et Jeff Hardy, qui se considère champion reconnu, et Edge Styles, qui dit que tous les autres sont des escrocs, sauf lui. Donc autant vous dire que l'ambiance est un peu tendue. Si on vient tous les trois au milieu du ring, c'est qu'on va accrocher les ceintures officiellement, puisque dimanche nous attend un triple threat ladder match entre tous ces hommes, et le gagnant sera le champion intercontinental incontesté, c'est ce que nous dit Corey Graves. Bon, bah, chacun prend le micro pour en gros, voilà, défendre sa position et insulter les autres. Sami Zayn, il en veut beaucoup à AJ Styles d'avoir participé à ce tournoi frauduleux qui a eu lieu pendant le printemps pour désigner un nouveau champion intercontinental. Et il en veut beaucoup à Jeff Hardy qui a gagné le titre ensuite de ne pas lui avoir appelé direct en lui disant bah, je te rends le titre, tiens, voilà, on est copains. Et il lui fait une remarque assez drôle au passage en lui disant tu te rends compte, je vais devoir passer par un ladder match. Est-ce que tu as idée d'à quel point ça peut être dangereux un ladder match? C'est assez drôle de dire ça à Jeff Hardy qui lui-même dit à Sami Zayn au contraire, mec, profite de ta chance. Là, tu vas pouvoir dimanche mettre tout le monde d'accord et régler la question si tu es bon. Donc, profites-en. Et puis, on accroche les ceintures. Hop! Elle monte au plafond, on fait monter la queue de Mickey. Sauf que Sami Zayn, en partant, il fait tomber une échelle sur ses deux adversaires. Il est un peu en colère, il s'en va. Jeff Hardy met un twist of fate à AJ Styles, mais on a un nouveau general manager à SmackDown, ça tombe bien, c'est Adam Pearce. Alors c'est un general manager qui est non déclaré, mais enfin il est là toutes les semaines, donc c'est quasiment lui. Hein, qui dit que oui. Ça va pas se finir comme ça, et on va avoir un triple threat. Donc, oui, tu voulais dire quelque chose sur ce segment déjà, papy?
Ouais, alors bon, c'est bien, ça met en place un peu la confrontation entre les trois. Bon, c'est quelque chose de très attendu, très classique, mais en même temps, c'est très bien qu'ils se foutent sur la gueule juste avant le pay-per-view, ça fait monter la sauce, mais par contre, foutre un triple threat la veille d'un match, deux jours avant, un triple threat aussi, ça par contre, je suis rarement fan quand t'as la répétition 2 jours avant. Mais bon, c'est pas les mêmes règles, donc on va dire que c'est pas pareil.
Ouais, c'est quand même assez différent parce que là, donc, on a eu droit à un triple threat nature, hein, brut de pomme. Donc, un match de bonne qualité, de bonne facture, je dirais, où tout le monde a un petit peu déroulé. Donc, on a eu droit à Jeff Hardy whispering the win sur les deux d'affilée. Sur les deux en même temps, pardon. Sami Zayn, il a eu une séquence où il a envoyé deux Aluva Kick, il a kické tout le monde. Et puis au final, AJ Styles envoie un phénoménal forearm dans la tronche à Jeff Hardy, mais Sami Zayn fout AJ Styles dehors et vole le pin. Donc c'est quand même le champion, on va dire, celui qui fut champion, l'ancien champion, le champion vacant qui remporte, cette première manche. Mais est-ce qu'il gagne vraiment le segment? Mais pas vraiment, parce qu'il n'a même pas le temps de se satisfaire de cette victoire. AJ Styles est hyper vénère, il lui envoie dans la tronche, il envoie Jeff Hardy dehors, et pendant que ses adversaires de dimanche sont en train de mourir, eh ben, il prend une échelle, il grimpe et il va décrocher les ceintures. Du coup, ben, il va falloir tout recommencer à les accrocher. C'est pas très sympa pour les agents de la technique, AJ Styles. Mais voilà, est-ce que toi ça te marque ces images? On les voit beaucoup aussi avant les ladder matchs, le mec qui veut décrocher pour montrer qu'il sait faire. Est-ce que vraiment c'est l'ascendant psychologique qui est pris pour toi?
Bah, c'est surtout en fait généralement le mec qui décroche, il finit par pas la décrocher le jour J. Donc
En général, oui.
c'est comme ballot de perdre le match contre Sami Zayn et au final d'aller décrocher soi-même la ceinture et du coup se prendre la malédiction. Je me dis bon bah du coup peut-être que Sami Zayn il a gagné la vie du pay-per-view, ça va être pour lui la malédiction. Bah non, il est encore plus malin. Il dit non, je cherche la ceinture comme ça, la malédiction elle est pour moi. C'est moi qui prend le truc là, la poupée vaudou. Donc bon après par contre, le match était plutôt bon. J'étais étonné parce que du coup, je m'étais dit ils vont faire un truc vite fait, bien fait, la veille du pay-per-view et trouver une entourloupe pour pas que ça aille jusqu'au bout. Mais non, ils ont fait un vrai match. Je sais pas en tête la durée, mais en tout cas, il était plutôt sympa.
Moi j'ai plutôt aimé l'affrontement. De manière générale, je trouve que c'est une bonne rivalité qui se tient. Alors c'est ficelle un peu facile, voilà, qu'on n'a pas si souvent que ça, hein, l'histoire de deux champions qui se disputent l'histoire. Il faut qu'il y ait quand même qu'il y ait eu un titre vacant. Et puis bon, les mecs sont de qualité. Sami Zayn est assez en feu, donc je suis assez enthousiaste pour ouvrir le show. Je trouvais que c'était un bon opener. Là, on a eu un bon segment de bonne
Yes.
qualité.
Mais par contre, est-ce que ça t'a fait comme moi la petite crainte quand tu vois qu'ils mettent deux ceintures de te dire putain, ça y est, à la fin du pendant le pay-per-view, ils vont faire en sorte que chacun prenne une ceinture et du coup, on va remettre une pièce dans la machine.
Ah, et ben exactement, oui. Ça, j'avoue, c'est le booking auquel j'ai pensé aussi. Alors on verra si on aura raison, mais je me suis dit à tous les coups, ils vont se remettre deux sur la gueule et Sami Zayn va décrocher la sienne et Jeff Hardy aussi. Et puis bon, et on aura un contre un plus tard et on va foutre AJ Styles dehors de l'équation. Mais c'est une crainte que j'ai effectivement. Enfin, je sais pas
Ou
si c'est
alors,
une crainte.
encore plus con, chacun décroche la sienne, il la font tomber, c'est Jay Styles qui la récupère.
Ah oui, ça arrive aussi des
comme
fois.
ça, tu cumules le Money in the Bank d'Otis et puis les autres trucs un peu débiles que nous sort parfois avec ce type de stipulation.
Ah bah tiens, transition parfaite, papy. De qui viens-tu de parler?
De l'échelle? Non,
Non.
d'Otis, Otis, Otis.
Otis, voilà, il est là, Otis, il est en coulisses. Alors Otis, il est un peu emmerdé. Parce qu'après ce qu'il a fait au Miz la semaine dernière, il y a une histoire de procès. Il a pas le droit de s'attaquer au Miz, sinon ben, il pourrait devoir abandonner sa mallette de Money in the Bank. D'ailleurs, Miz et Morrison arrivent tout fiers de leur coup. Le Miz, il dit qu'il est prêt à aller très loin dans cette affaire. La preuve, hein, il suffit de demander à Mandy Rose où est-ce qu'elle est maintenant. Ben, elle est partie à Raw à cause du Miz. Otis, il est un peu vénère. Lui, tout ce qu'il dit, c'est que par chez lui, oh, on n'aime pas la justice. Hein. Sa mère lui a dit de se méfier de trois choses dans la vie. C'est les clowns, les avocats, et je me souviens plus du truc qu'il a dit au milieu. Bref,
Attends, les clowns, les avocats et... Mais t'as raison, j'ai oublié. Bon, ça ne doit pas être passionnant, de toute façon.
c'était pas une très grosse blague. Et bref, du coup, ils sont un petit peu vénères. Et Tucker qui lit le contrat en profite pour glisser. Mais attends, le Miz, sur ton contrat, il y a marqué qu'il n'y a que toi qui es protégé. Du coup, tout le monde se regarde et Otis, il se jette sur Morrison qui était en train de filmer la scène en faisant son kéké. Donc Morrison passe un peu à travers les rideaux métalliques de la salle puisqu'on est en coulisses. Les officiels viennent un peu les séparer. Et alors moi, ce que je n'ai pas compris, c'est qu'il m'a semblé qu'on a dit que c'était ce soir que Otis devait décider, mais on n'aura plus aucune info là-dessus. Il me semblait qu'on a dit tonight, enfin, tu as juste une semaine pour savoir si tu vas en justice ou si tu abandonne ton Money in the Bank et est-ce que j'ai mal compris ou est-ce qu'on a oublié de nous en parler?
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pensais vraiment qu'on. En fait, quand j'ai vu apparaître Otis, je me suis dit, tiens, j'ai oublié, c'est vrai, aujourd'hui, on va avoir la petite histoire avec Otis, ça va être un peu notre fil rouge et tout. Et puis, non, en fait, ils ont fait cette petite pirouette avec Morrison qui a envie de se faire taper. Et puis après, c'est terminé, quoi. Donc, je suis surpris et un peu déçu, je l'avoue, parce que je m'étais fait à l'idée de qu'on a un petit segment comique. Mais on l'aura pas. Peut-être plus tard.
Non, ben bah oui, bah surtout qu'ils nous l'ont. Ils nous avaient donné une deadline, moi c'est ce que j'avais cru comprendre. Alors après, peut-être qu'on aura un segment à Clash of Champions, qui sait, mais.
Ouais, peut-être. Ou alors peut-être qu'il rallonge la sauce, je sais pas te dire.
Ouais, je ne saurais pas te dire non plus. En tout cas, j'ai été un peu étonné qu'on ne les revoie plus du tout. C'est pas qu'ils nous auraient manqué, mais bon, c'était ce qu'on croyait avoir compris. Bizarre, bizarre. Bon, le segment coulisses n'avait pas grand intérêt, en tout cas, ça. peut pas dire
Non,
ça.
c'est vrai. Et d'autant plus maintenant qu'en plus, il te donne même pas la fin du truc, quoi.
Ouais. Bon, heureusement, on va passer vite sur ce segment. On va revenir sur le ring, ou plutôt sur les abords du ring, pour parler de quelque chose d'un peu plus important. C'est la ceinture championne de SmackDown féminine. Donc, Bayley est là. Elle s'assoit sur une chaise sous le Titantron et elle nous fait une promo dont, je dois être honnête, j'ai pas noté grand-chose d'intéressant. En gros, voilà, elle a détruit un peu Sasha Banks qui servait à rien, qui était une pleureuse et qui était une loseuse. Et puis, vu ce qu'elle est capable de faire à celle qui était sa meilleure amie, imaginez un peu ce qu'elle va pouvoir faire à Nikki Cross. Et voilà, et puis elle ferme sa chaise et elle s'en va. J'ai trouvé que c'était pas top, Bayley, là, niveau intensité, hein. J'ai l'impression que personne n'y croit, surtout pas elle, cette histoire de trahison, cette histoire de violence, cette histoire de feud avec Sacha qui se fait mais qui se fait pas puisque Sacha est censé pas être là. Est-ce que toi, t'as eu meilleur sentiment que moi sur ce moment-là?
Ah non, 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 c'était pas bon. Et sincèrement, je me suis dit tout le long qu'il allait y avoir une intervention ou quelque chose, quoi. Et puis non, il s'est rien passé. Donc, elle a fait patienter avant rien. Donc, je sais pas trop l'intérêt de ce truc-là. C'était peut-être juste pour montrer la tête de Bayley, mais pas trop,
Ouais.
ouais. Vraiment pas intéressant.
Ça n'a pas grand intérêt la tête de Bayley, je trouve, mais bon, c'était ouais.
Oh, c'est la championne, quoi.
Oui,
Faut dire ça,
bien
là.
sûr. Mais je drôle de promo micro et je dois avouer que Bayley m'a pas fait rêver dans cette histoire. Pourtant, c'est vrai qu'on dit souvent dans les promos heels, plus facile à faire qu'une promo face et tout, mais c'était pas très
Bah.
méchant, c'était pas très.
Ouais, alors je me dis, est-ce que c'est parce que justement, bah, c'est pas c'était une promo sur Sacha et que c'est pas Sacha qui a la fonte dimanche, donc du coup bah on n'est
Ben
pas dedans quoi. C'est pas l'histoire de tout de suite quoi. Donc forcément il peut pas faire une promo décisive. Mais bon, c'est quand même pas terrible quoi.
Mais on ne verra pas Nikki Cross de tout l'épisode alors qu'il y a ce match dimanche. Est-ce que c'est un peu inquiétant? Enfin, est-ce que c'est un peu handicapant là quand même pour la rivalité d'après toi pour un go home show, il aurait fallu, non?
Ouais, c'est vrai que là, bah, en fait, il y avait déjà eu un, on avait parlé à Raw que le Gomme Show était pas terrible. Et là, c'est pareil, il y a certaines rivalités pour lesquelles bah, le build pour le dimanche est vraiment pas là. Alors autant là, on l'a eu pour le Triple Threat, on a quand même eu un segment d'ouverture qui était bien. Autant là, pour les filles, c'est vraiment pas leur objectif, on dirait, le match du dimanche. Voilà, ils ont mis un match parce qu'il fallait mettre un match. On en parlait lundi. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est ça, quoi.
Ah bah oui, voilà, on le sait un peu, hein. On voit mal Nikki Cross prendre la ceinture, mais bon, on pourrait au moins faire semblant, quoi. Au moins faire un petit truc.
Ouais,
Même si on sait qu'elle va perdre Nikki Cross ou qu'elle va pas être championne et que tout ça, ça n'empêcherait pas d'avoir un petit segment sympa, mais non, on l'a pas eu. On l'a pas eu et on va passer à un nouveau build, celui des ceintures tag team de SmackDown. Donc les champions, bah, c'est Nakamura et Cesaro. Ils vont affronter les Lucha House Party dimanche. Donc ce soir c'est Nakamura tout seul qui enfin tout seul. Cesaro est aux abords du ring mais il est tout seul sur le ring qui affronte Grand Metalik tout seul aussi au milieu du ring. Bon là on a un certain style hein, comme d'habitude même si on connaît les luchadors et leur petit sens du botch mais on a quelques enchaînements sympas et à l'extérieur un peu du ring sur la rampe. Nakamura qui prend un peu cher hein, Grand Metalik lui passe pas mal de prises jusqu'à ce qu'il réussisse à lui envoyer un coup de genou dans la nuque et puis ensuite il attrape le Mexicain et lui fait une souplesse pour le mettre à genoux et hop il lui envoie le Kinshasa dans la tronche et Nakamura l'emporte. À ce moment-là, Lince Dorado monte sur le ring pour aider son copain. Cesaro lui envoie une souplesse et Kalisto le troisième non il décide de pas monter. Du coup, forcément, il monte une fois que les champions sont partis et ses copains l'engueulent un peu en lui disant ouais, machin, t'étais pas là. Il lui dit je voulais juste vous aider. Bon, c'est toujours un peu tendu chez les Mexicains et du coup, est-ce que ça donne grand espoir de les voir champions? Là, est-ce que ce build t'intéresse? Ou est-ce que le match au moins t'attire? Est-ce que t'as hâte de revoir tout ça entre les cordes?
Non, mais tu sais bien, je boude la tag team, je boude les tag team, je refuse de me prononcer sur ce match. Non, je n'ai pas d'intérêt pour eux tant qu'ils feront pas un bon match de tag team l'un contre l'autre. Voilà, alors leur petit match en solo, Cesaro versus Lince Dorado et Grand Metalik versus Nakamura, bah c'est bien, ça occupe du show, mais moi je ne suis à la limite de pas regarder, quoi. Tellement je boude.
Eh ben écoute, on va laisser bouder papy, chers auditeurs. Moi, j'ai bien aimé l'affrontement parce qu'il y avait du rythme et il y avait quelques prises sympas. Après, c'est vrai que là encore, c'est ce qu'on a dit lundi à Raw. Je sais pas si vous avez écouté notre review. On nous a foutu un Clash of Champions et du coup, on se sent obligé de défendre toutes les ceintures. Mais bon, là, c'est du challenger qui allait racler au fond de la lucarne et qui, en plus, s'entend plus. Donc, c'est quand même un peu bizarre. Alors, ça existe, hein, les équipes dissonantes, et des fois, elles gagnent. Hein, on en a déjà eu pas mal. C'est même une grosse ficelle de la WWE. C'est les championnes féminines, d'ailleurs, tag team. Mais bon, là, déjà qu'ils apparaissent pas supérieurs, et si en plus, ils se mettent sur la gueule entre eux, les Mexicains n'ont plus besoin de personne pour feuder.
Ouais, mais c'est
Ouais.
dur d'avoir des. Enfin, la division tag team, comme on disait l'autre jour, en fait, c'est. Ils ont peu d'équipes et en plus, leurs équipes, elles marchent pas ensemble. Donc, c'est
Ben là, on
vraiment
a
pas
perdu tout le
génial.
monde, hein. SmackDown, ça fait des mois, voire des années, que c'est les Usos, le New Day, donc
New
déjà
Day.
tout ça y a plus. Il y avait un peu les Machinery, bah pas trop. Miz et Morrison qui étaient à WrestleMania, ils sont plus vraiment intéressés par ça. Donc ouais, il y a un petit creux, il y a un petit coup de mou, mais on va tous ensemble espérer que ça se reprenne dans les semaines à venir pour que Papy puisse regarder à nouveau ça avec délectation quand même.
J'espère dès lundi à l'issue d'un Clash of Champions réussi.
Et bah oui, on va croiser les doigts et on va bah faire un petit hommage au passage au Road Warrior, donc Animal Road Warrior qui nous a quittés cette semaine. Donc l'un des deux membres de cette tag team historique de la WWE. Je pense que notre ami Tonton Chris aurait beaucoup à nous dire. Papy, est-ce que tu les as connus un petit peu, les Road Warriors qui désormais bah, ne sont plus. Ils retrouvent une tag team au paradis des rings là-haut avec
Oui,
André
alors
le
voilà,
Géant.
ils se rejoignent. Après,
Et ouais.
effectivement, ça fait partie des passages à WWE où j'ai vraiment pas beaucoup de souvenirs. J'ai dû regarder avant, j'ai dû regarder après, mais pas pendant. Donc, du coup, ça me, j'ai pas grand-chose. En fait, je t'avoue que j'ai même pas un seul match en mémoire avec ces tag teams. Alors que je sais que c'était une tag team de très très haut niveau, mais malheureusement, j'ai pas de mes matchs en mémoire comme ça.
Et ben voilà, petit hommage quand même à Road Warrior au passage. Et bah après, la vie continue. Et alors, c'est Jey Uso qui est très en forme. Hein. Il arrive tout sautillant là, dans les couloirs de SmackDown. Il est content. Et machin, tête, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Il essaie de frapper un petit peu à la porte de la loge de Roman Reigns. Bon, Roman Reigns lui ouvre pas. C'est pas grave, il continue. Et là, on nous passe un clip qui est censé nous raconter un peu toute cette feud. Parce que voilà, Roman Reigns affronte Jey Uso à Clash of Champions. C'est ça, c'est pas anodin. C'est des cousins, ils se connaissent très bien. Donc on nous a envoyé toutes les photos quand ils sont bébés, quand ils sont petits, qui se tiennent par le cou quand ils vont jouer au football américain. On a les interviews de la famille, on a Rikishi, donc le père des Uso, Sika, le père de Roman Reigns, Jimmy Uso. On note que tous ces gens-là n'ont pas tous de bonne qualité sonore. Hein. On peut nous reprocher, papy, d'avoir des casques de petit budget, toi et moi, d'avoir pas forcément les meilleurs sons du YouTube game ou du podcast game catch-up français. Mais là, il y avait de l'écho dans les salons des Samoans. J'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Et puis bon, bah voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah, Roman Reigns, depuis qu'il est tout petit, il veut gagner. Et puis, depuis qu'ils sont tout petits, ils se sont toujours battus tous un peu ensemble. Donc voilà, ils se connaissent. En gros, figure-toi, papy, qu'ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits.
Sans blague,
Voilà, c'est
on
ça.
l'aurait pas deviné, hein, vu tous les segments qui nous passent depuis des semaines, où c'est quasiment les mêmes avec d'autres photos, mais bon, sinon, mais bon. Après voilà, c'est toute l'histoire est quand même construite sur cette relation-là, avec le pauvre Jay qui est totalement naïf, avec un grand sourire, avec hey, copain, pourquoi tu réponds pas à la porte? Hey, copain, pourquoi t'es pas content quand je te rends la ceinture? Hey, copain, viens, on va faire un match, ça sera le meilleur qui va gagner. Naïf, naïf, arrête d'être naïf.
Naïf. Eh ouais, c'est quand on a 19 ans qu'on est naïf, c'est quand on est la fille de Rey Mysterio, mais c'est pas qu'on est Jey Uso. Alors d'ailleurs, tu parlais de ça, du fait qu'il est un peu naïf et qu'il comprend pas pourquoi Roman Reigns n'est pas content quand il aura sa ceinture. Alors figurez-vous que la semaine dernière, quand ils se sont mis en équipe contre Corbin et Sheamus, ils étaient copains, mais quand Jey Uso il est parti, ben Roman Reigns il lui a jeté un œil noir dans son dos. Sauf que ça a été filmé, figure-toi, par les caméras.
Non!
Et donc du coup, eh ben, alors ça, on va y aller à grosse tartine, au cas où c'était pas assez subtil. Michael Cole, tout le monde, regardez, look at that look, regardez ce regard et tout. Donc ben, Uso, il arrive sur le ring. Et voilà, et pareil, il nous re-ramène ce clip-là et il nous redemande, hey, regarde, look at that look. Mais dis donc, pourquoi tu me regardais comme ça? Alors je comprends pas pourquoi c'est hyper important de savoir pourquoi il regardait comme ça alors que de toute façon, ils vont se mettre sur la gueule dimanche. Sauf que Reigns, il est dans son canapé, dans sa loge, avec Paul Heyman. Il a pas envie de bouger son cul, visiblement. C'est Heyman qui va même sortir. et qui va dire ouais, ok, il va y avoir explication ce soir, mais alors pas quand Jey Uso décide, quand Roman Reigns décidera. Là, on comprend tous que ça sera sûrement pour le main event, donc on va remettre les choses à plus tard. Je sais pas si déjà ce premier segment où Reigns affirme un peu voilà, prendre le contrôle de la situation, ça t'a intéressé. Est-ce que toi, tu veux savoir pourquoi Roman Reigns a regardé comme ça son cousin qui partait?
Ah non, moi je veux pas savoir, parce que je sais pourquoi le regarder comme ça, et que je
Ah,
sais
pourquoi?
qu'il va le défoncer, quoi, le pauvre Jay qui est naïf et qui vit au pays des bisounours. Mais t'as l'impression qu'il commence à se poser des questions.
Eh
Tiens,
ouais.
pourquoi dès que j'ai le dos tourné, il me regarde bizarrement? Mais dis donc, mais que va-t-il se passer? Est-ce que ça va vraiment être un match de fair play ce week-end? Je ne sais pas.
Je ne sais pas, attention, je ne suis même pas si c'est si important que ça, parce que fair play ou pas, je pas sûr que ça change grand-chose dans l'issue du match. En tout
Non, je pense pas
cas,
non plus.
voilà, gardez ça bien chaud dans votre tête pour le main event. On a encore un petit peu de segments à faire entre-temps. Notamment un énième match entre King Corbin et Matt Riddle, bro, puisque cela feud depuis très longtemps. Enfin, Corbin, de toute façon, voilà, ces dernières semaines, enfin, ces derniers mois, il sert un peu aux uns aux autres. Là, il a fait 2-3 semaines où il servait un peu à Roman Reigns et Jey Uso. Ben là, voilà, il veut à nouveau affronter Matt Riddle. Alors, il commence très fort. Corbin, c'est lui qui domine. Il envoie des gros coups de poing. Là, il tient Matt Riddle dans le coin, il le tabasse. Puis après, on roule à l'extérieur. Riddle reprend un peu le dessus en envoyant Corbin à travers la table des commentateurs. Et puis Corbin remonte sur le ring, on redomine. Alors là, il étrangle son adversaire sur les cordes, il lui envoie des coups de poing, tout ça. Riddle se réveille à un moment donné, il fait son espèce de contre où il attrape son adversaire, il le tire vers lui pour lui mettre un coup de genou dans la tronche. Il envoie une souplesse, un moonsault, son coup de pied à la volée là quand il rebondit dans les cordes et qu'il envoie le coup de pied dans la tronche de l'adversaire qui est à genoux. C'est pas mal. Il essaye de réenvoyer son coup de genou, mais il prend le deep six, ça fait near fall, et ensuite, alors que Matt Riddle essaye de sauter sur son adversaire depuis le turnbuckle, Baron Corbin lève les genoux, et ouais, le coup classique, Riddle tombe sur les genoux, ça fait très mal, il prend dans la foulée le End of Days, et c'est la victoire de King Corbin. Matt Riddle est vénère, on vient l'interviewer à ce moment-là, toujours bizarre, juste après une défaite au milieu du ring, tout transpirant. Et Riddle, il a juste le temps de dire que en gros, il va essayer de progresser, et puis tout ça, et puis que bientôt SmackDown, ça sera le Bro Show. Donc il est toujours motivé, il est toujours déter, mais il a perdu. Et ouais.
Ben, il a perdu le pauvre Matt Riddle alors que la semaine dernière il a fait une petite vidéo où tu avais l'impression qu'il était en train de retravailler un peu son personnage et puis derrière il reprend une vieille rivalité contre Corbin et il perd clean contre Corbin. De toute façon quand ça end of day généralement c'est terminé derrière. Et ben voilà quoi, le pauvre Matt Riddle je sais pas du tout où il va aller du coup là parce que repartir dans une rivalité avec Corbin en perdant c'est pas vraiment la route du succès. Hein.
Non, alors je sais pas si. Je t'avoue que donc j'ai moins bien suivi hein, les derniers SmackDown là ces dernières semaines, j'étais pas trop disponible. Mais c'est vrai qu'on dirait que là il y a toute une mid-card qui navigue un peu comme ça. Pour Riddle c'est pas ouf, mais c'est vrai que Corbin, Sheamus ou tout ça sont aussi un peu à navigue à vue et je vois pas trop. Ils vont sûrement. Enfin j'ai du mal à penser que ça soit la feud qui redémarre. J'imagine que c'était un peu plutôt un match pour clore le truc et Riddle va se trouver autre chose. Je ne
Ou alors,
sais
ouais, il
pas.
manquait de match, peut-être qu'il manquait de match pour booker la carte.
Ouais.
Parce que c'était quand même assez creux, hein,
Ah bah oui.
ce Gohan Show. Hein. Donc,
Ah, c'était très vide. Alors, après, honnêtement, le match n'était pas mauvais, j'ai trouvé. Je sais pas ce que t'en as pensé.
non, il était pas mal. C'est juste que tu te demandes qu'est-ce qu'il fait là, en fait. Tu
Oui.
te dis, ça fait des semaines qu'il tourne plus autour l'un de l'autre, et puis d'un coup, t'as quand même qui fait une promo en disant, ah non, toujours j'ai vu Matt Riddle qui passait à la télé, là, il va voir un peu c'est qui le patron. Ok, t'énerve pas comme ça, change de chaîne la prochaine fois. Hein. Non, bah
Ouais.
non. Il s'est énervé.
Oui. Bah, peut-être c'était, je sais pas, peut-être histoire de redonner un peu de. On verra dans les semaines à venir à qui c'était censé servir. C'est vrai qu'en fait, pendant que le match a eu lieu, c'est marrant. J'ai été surpris de l'issue parce que je me suis dit, de toute façon, Corbin, il gagne rien en fait. Il gagne jamais, il sert juste. Maintenant, il sert qu'à builder, voilà, quand Matt Riddle arrive parce que voilà. Qu'il a eu aussi comme feud Roman Reigns longtemps, un peu Otis, tout ça. Ouais, il sert juste à builder un peu les petits jeunes qui ont besoin de force, les petits top face, mais finalement, bah, il gagne. C'est une bonne surprise, entre guillemets, j'ai envie de dire. Ça rappelle qu'il est dangereux. Voilà.
Voilà, peut-être que c'est pour justement le renforcer lui pour une autre rivalité, peut-être que je sais pas, peut-être qu'il va aller voir Biggie après. Ou
Peut-être, on verra
je ne
bien.
sais pas.
Là, on n'aura pas d'infos. Et puis, je pense qu'on n'aura rien ce dimanche. Hein. La carte est bien remplie quand même de matchs de championnat. Donc, on ne devrait pas voir ces gens-là à Clash of Champions.
Espérons pas en tout cas.
Ouais, bon, alors un petit passage avec un clip. Il y a une jeune fille qui se maquille, tout ça, qui se met du rouge à lèvres et puis qui écrit le mot Untouchable dans son miroir. Une future montée sûrement de NXT. Pour le moment, pas plus d'infos. Enfin, en tout cas, son identité ne nous est pas dévoilée. Est-ce que
Ah, il semble
tu.
que ça serait peut-être un reboot de Carmella.
On parle de reboot de Carmella, effectivement.
À voir.
Mystère. Ou alors c'est Emmalina ou Carmelina.
Carmelina, peut-être, oui.
Carmelina, ça serait bien, ouais. Carmelina. Bah, si on l'attend aussi longtemps qu'Emalina, on en a pour un petit moment.
Bah, après, si c'est pour finir comme Emmalina, ça me dérange pas pour Carmella.
Allez, disons ça. La pauvre, on verra bien. Bon, c'est pas très intéressant, mais ça nous ramène doucement vers la division féminine. Alors, Alexa Bliss affronte Lacey Evans. La semaine dernière, Lacey Evans, elle avait perdu contre Nikki Cross. Elle avait un peu provoqué Alexa Bliss en lui disant « Ouais, retourne voir ton Fiend là. » Et puis Alexa Bliss, elle avait fait vriller complètement parce que quand on prononce le nom du Fiend, Alexa Bliss, elle pète les plombs. Mais là, ce soir, Alexa Bliss, même si elle arrive avec une coiffure d'un peu du Fiend et tout, complètement en pétard, elle a l'air d'avoir sa personnalité normale. Et d'ailleurs, ça la dessert parce que Lacey Evans lui roule dessus quasiment tout le match. Elle en fait un chiffon, elle la traîne dans tous les sens, elle la domine au sol, elle la met sur le ring. Et puis tout d'un coup, on entend résonner dans la salle le rire de Bray Wyatt. Mais comme les ingénieurs techniques sont très intelligents, de suite on part à la pub, c'est assez bizarre. Et quand on
Ouais.
revient, en fait, on nous apprend que ben, c'est Lacey Evans qui redomine parce qu'Alexa Bliss, elle a juste été un peu distraite par ce rire. Ok, bon, d'accord, pourquoi pas. Sauf que le match reprend, bon, pas très intéressant le match. À un moment donné, Lacey Evans rate son moonsault, les deux jeunes femmes sont un peu en train de reprendre leur souffle, et tout d'un coup, on se retrouve avec la lumière rouge et la musique du Fiend. Ça dure 3 secondes, tout d'un coup tout devient normal, mais là, Alexa Bliss, ça y est, ça a fait le déclic, elle pète les plombs, elle se déchaîne sur Lacey Evans, elle la tabasse, elle la tabasse, elle la tabasse tant bien que mal, elle la tabasse tant et si bien qu'au final, comme elle fait ça dans les cordes, et ben, l'arbitre sonne la disqualification d'Alexa Bliss. Qui ne se fait pas prier pour sortir du ring avec Lacey Evans et lui foutre, comme la semaine dernière, un Sister Abigail ben, hors du ring. Elle revient au milieu du ring, Alexa Bliss. On voit le Fiend, on voit la tête du Fiend sur tous les écrans, il y a la lumière rouge. Et Alexa Bliss, elle sourit, elle a l'air contente. On peut dire, je pense, que ça y est, elle est complètement possédée. Est-ce que ça te plaît cette idée-là de voir Alexa Bliss qui petit à petit se laisse conquérir par The Fiend? Est-ce que. Mais qu'est-ce que tu vois à ce personnage? Est-ce que tu lui imagines un grand avenir de Fiend Bliss championne ou est-ce que ça va rester un peu secondaire? Qu'est-ce que t'en penses?
Ah, là, alors l'avenir, j'ai du mal à me le projeter très loin.
Ouais, difficile, hein.
J'arrive juste à me projeter jusque dimanche à peu près en me disant, bah voilà, ils ont donné une porte de sortie à la rivalité, peut-être, enfin, peut-être match de championnat entre Bayley et Nikki Cross. Et si jamais t'as comment elle s'appelle, Alexa Bliss sur au bord du ring, et imaginons qu'il y a le musique du film qui débarque et d'un coup elle pète la câble et qu'elle fasse un no contest dans le match ou je sais pas quoi, ou qu'elle attaque
Bonne
Nikki
idée.
Cross, ou qu'elle attaque Bayley ou n'importe quoi, en fait on peut très mal imaginer, ouais, pour attaquer Bayley, du coup Bayley elle gagnerait par disqualification. Enfin, ça peut permettre de faire une porte de sortie à ce match-là, et en fait le fait d'avoir introduit maintenant que Alexa Bliss elle pétait complètement un câble dès qu'elle avait soit la mention du film soit la musique. Bah, je trouve que c'est, ouais, ça, bon, en tout cas, ça, je trouve que ça donne des portes de sortie à pas mal de scénarios. Ça va rien dire du tout ce que j'ai dit, mais c'est pas grave.
Si, si, t'inquiète.
Mais voilà. Après, ouais, par contre, en long terme, je sais pas du tout, hein, parce que c'est toujours le problème avec le personnage du Fiend, en fait. C'est que, comme l'Undertaker, tous ces trucs-là, c'est des trucs qui sont tellement au-dessus du catch, en termes de personnage, que du coup, tu sais pas comment trop l'utiliser, quoi. Donc, pourquoi pas une Bliss qui finit par conquérir un titre? Mais je suis même pas sûr que ce soit le but en fait de ce genre d'expérience en fait. Ça sera plus des mind games, des trahisons, des machins et peut-être moi j'adorerais voir un Bliss et Finn en mode face. Bah finalement comme le Taker quoi. C'est-à-dire les mecs qui sont ultra dangereux, ultra tarés, mais qui finalement sont plus tarés que méchants, tu vois. Donc
Baisse, ouais.
ça serait bien ça. J'aimerais bien voir ça.
C'est un peu ce que j'allais te dire en fait, c'est que c'est compliqué avec ces personnages-là parce que c'est compliqué aussi au niveau des alignements. Et d'ailleurs, on ne sait pas trop. Au final, le Fiend maintenant, ses apparitions, elles ont. Bon, alors c'est le public du Thunderdome, c'est un peu particulier, mais elles ont plutôt l'air d'être bien perçues. On l'apprécie le Fiend, surtout que bah, ça laisse un petit goût amer quand même tout ce qui lui est arrivé avec. avec Roman Reigns qui leur a roulé dessus et qui s'est barré. Donc Roman Reigns, c'est le top heel maintenant. Le Fiend, c'est presque sympathique. Et en fait, est-ce que Alexa Bliss turn heel là? Parce que bon, elle a été pas très sympa avec Nikki Cross, mais en même temps, Lacey Evans, c'est quand même une méchante, donc elle a battu une méchante. S'il n'y avait pas eu la feud de Sasha Bailey, je te dirais limite, ouais, Alexa Bliss pète un plomb et part rouler sur Bailey et lui prendre son titre. Mais là, ça va pas, ça colle pas. Bailey peut pas perdre son titre de championne sur Alexa Bliss et faire une feud sans enjeu avec
Sasha.
Avec Sasha,
ouais, tout à fait. Ouais.
Ça me paraît bizarre, mais c'est difficile à pronostiquer. Après, par contre, bah, c'est bien, je trouve, pour Alexa Bliss qui a toujours été un personnage important, populaire à la WWE, qui a bien fait le taf et qui là bah, est à fond dedans, je trouve. On peut pas dire le contraire. Donc intéressante évolution de son personnage, mais à voir ce que ça peut donner. Après,
ouais, je dirais qu'elle tourne ni face ni heel. Je dirais qu'elle turn Fiend.
Ah, Fiend turn. Bravo, papy, bravo. Mais écoute, peut-être que quelque chose va se dessiner, parce que bon, on pourrait se dire, purée, le Fiend, après des mois, là, depuis WrestleMania, à être dans les bottes de Strowman et à faire des rivalités monstrueuses pour le titre mondial, et là, il se retrouve têche de tout en un soir lorsque Roman Reigns est revenu. Mais c'est peut-être pas fini avec tout ça, parce que quand Alexa Bliss s'en va, elle croise Roman Reigns. C'est l'heure du main event. Roman Reigns arrive enfin pour parler. Il est avec Paul Heyman, il lève sa ceinture bien haut, sauf qu'il ne voit pas, petit retour à l'envoyeur de la semaine dernière, il ne voit pas que dans son dos, Alexa Bliss le regarde avec un regard bleu et froid comme la mort. Alors qu'est-ce que Alexa Bliss va se mêler à une future feud, à un futur retour du Fiend? Est-ce que ça t'intéresserait?
Bah, en tout cas, je trouve ça intéressant d'avoir, il y a une ou deux semaines, je pense, la marionnette de Paul Heyman qui apparaît dans la Firefly Funhouse. Et là, d'avoir finalement une des autres marionnettes du film, de Alexa Bliss, qui regarde de manière assistante le Reigns, qui est le mec qui lui a piqué le titre. Donc, c'est des pistes qui sont sympas, en tout cas.
L'image était impressionnante, j'ai trouvé, la caméra de Reigns, ouais, qui fait son big dog comme si de rien n'était, et d'Alexa Bliss derrière qui...
Un regard bien intense, hein.
Ouais. Donc peut-être que c'est la suite de la carrière de champion de Roman Reigns qui se joue là, parce que bon, la rivalité avec son cousin, hein, on n'est pas très indécis sur l'issue finale. Donc voilà, Roman Reigns arrive, Jey Uso arrive aussi. Roman Reigns lui dit, écoute mon frangin, mon cousin, voilà, tu veux ma version de l'histoire, écoute, voilà, franchement, je te donnerais le titre si je pouvais, mais bah je peux pas. Parce que tu sais pas, toi, ce que ça représente. Tu sais pas la responsabilité que c'est. Tu sais pas le poids que c'est d'être le top guy de la WWE. Parce que toi, t'es un jumeau. Et ouais, t'as toujours été deux, toi. Alors, je dis pas que t'es la moitié d'un homme ou que, voilà, tu mérites pas. Mais quand même si la famille est fière de toi, la famille dépend de moi. Là, Roman Reigns, il se pose vraiment en chef de tribu. Hein, c'est son nouveau tribal chef. Voilà, ça a toujours été moi, le chef de la tribu. Il nous dit... voilà, j'ai tout fait pour j'ai tout fait, c'est moi qui nourris la famille, en gros, voilà, c'est le chef, c'est lui qui rapporte la bouffe à la maison, quoi, Roman Reigns. C'est moi, ça a toujours été moi, ça a jamais été toi. Ça a jamais été toi. Il lâche le micro, il s'en va, et bah Jay, il a l'air un peu couillon, mais il prend le micro, et puis il commence à parler alors que Roman Reigns est en train de s'en aller, et il dit, ah ouais, et ben qu'est-ce qui se passe si tu te trompes, enfin, et si jamais tu te trompais, parce que moi aussi je pourrais être au top. Il dit, ouais, moi je nourris ma femme, je nourris ma famille, je nourris mes enfants, mais c'est vrai que toi t'es le big dog, t'es Mr. WrestleMania, t'es celui que les gens reconnaissent dans la rue. Moi, quand les gens me croisent dans la rue, ils me disent, ah ouais, t'es lequel des deux déjà? Du coup, Jey Uso, il a un peu sa rancœur de jumeau là qui ressort, et il dit, ben après dimanche, tout le monde saura, tout le monde dira, ah ouais, toi, t'es celui qui a battu Roman Reigns à Clash of Champions et qui est devenu champion du monde, et moi aussi je peux nourrir la famille, qu'est-ce que tu vas faire? Roman Reigns est hyper vénère, il souffle des naseaux, il préfère se retourner et partir sans regarder son cousin. Du coup, Jay pose son micro, commence à partir lui aussi, et il n'a pas trop fait attention, et il se mange un gros Superman punch dans la tronche. Roman Reigns regarde ensuite le cadavre de son cousin, et il se met à lui gueuler dessus et dit hey, « c'est moi qui nourris la famille avec ce titre, toi tu veux prendre, tu l'auras jamais, tu prendras jamais ma place ». Voilà, on est vraiment là dans une guerre de tribus samoanes. Il manque plus qu'ils aient droit à des lancers, à des sagaies. Mais l'intensité était là sur cette promo. Je crois que ça t'a plu, papy. Dis-nous en plus sur
Ah
cette
oui.
fin de show.
Je te confirme que ça m'a plu. La partie chef de tribu, moi, ça me plaît beaucoup, cette partie-là.
T'es chef de
C'est
tribu,
limite.
toi aussi?
Bah, oui, tout à fait. Je suis chef de ma tribu, la tribu de Papy, dans la vallée.
Ah oui, très bien.
Oh, qu'est-ce que j'allais dire? Et puis voilà, et il c'est limite, c'est un chef de tribu, mais en même temps, c'est un peu le parrain, tu vois. Tu vois, c'est lui, je fais manger ta famille, je fais manger tes enfants, c'est grâce à moi, c'est moi qui ai la ceinture, c'est moi qui gère. Tu vois, c'est Romain le parrain, quoi. Donc c'est le parrain, c'est le cousin, c'est le frangin, c'est le chef de tribu, c'est toute la famille à la fois, mais en tout cas, il se pose vraiment comme le mec, bah, l'ego super dimensionné, c'est tout repose sur moi, maintenant je suis le seul à pouvoir tenir ce rôle-là. Retourne jouer, toi. Tu sais bien que tu puisses manger mes miettes. Enfin, c'est. Et à la fin, quand il insulte Jey Uso, là, c'est moi qui ai mangé tes enfants. Je trouve ça vraiment intense et vraiment sympa, tu vois. Effectivement, on n'est pas dupe de la fin de la rivalité, mais je trouve que ça aide vraiment Roman Reigns à installer son personnage.
Moi, je suis étonnamment positivement surpris. Ouais, quand on a eu ce twist là où tout le monde pensait qu'on allait envoyer Biggie et qu'on nous envoie Jey Uso, on était là, putain, ouais, ok, pourquoi pas. Et ben en fait, fallait la faire, je trouve, cette feud, parce que de temps en temps, il faut avoir aussi, c'est pas forcément mauvais d'avoir de temps en temps une feud où tu te dis, bon, ok, c'est un challenger de transition, ok, tu sais qu'il va pas gagner, mais n'empêche, ben voilà, Jey Uso, on nous l'a dit, il a jamais eu de chance pour un match mondial tout seul, il va l'avoir. Sur Catch-up, sur Discord, certains parient il y a un squash. Moi, j'ai pas envie du tout, hein. Honnêtement, je sais que les deux garçons sont capables de faire un super match. Et j'espère qu'on aura un vrai super match. Je pense que ça serait, même si Roman Reigns va gagner, en a besoin pour son personnage, et c'est sûr. Il y a une belle histoire d'intensité à écrire là. J'ai hâte de voir cette rencontre. Et là, ouais, je n'arrête pas de le dire. Assumer un heel turn de Roman Reigns comme ça, c'est la meilleure idée qu'ils ont eue pour son personnage depuis, j'ai envie de dire, ouais, depuis la fin du Shield, quoi, limite. Chapeau, ça marche, ça fonctionne, tout le monde est à fond dedans. Une histoire de famille, on en a eu plein à la WWE, on en a chez les Mexicains, les Rey Mysterio, tout ça, mais là, je trouve que c'est bien, quoi. C'est bien. Ça
C'est
me plaît.
intéressant. Ouais. Alors, attention, hein, tout le monde voit Roman Reigns s'imposer contre Uso, mais est-ce qu'ils vont pas nous faire une entourloupe, genre à rallonger la feud en disant bah Uso résiste, il se laisse pas mettre KO, il se laisse pas mettre KO, et du coup Reigns se pète un câble et ramène une chaise ou une connerie comme ça, il perd par DQ. De toute façon, il s'en fout, il est champion. Donc il a les règles pour lui. D'ailleurs, je crois que c'est Hell in a Cell qui s'annonce derrière, donc ça pourrait permettre de faire une revanche dans la cage entre cousins qui serait dantesque.
C'est une possibilité. C'est vrai qu'à Hell in a Cell, on voit plus le Fiend dans cette stipulation, mais vu comment il est parti, c'est bien le genre aussi à débarquer dans la cage en plein match d'autres de ses copains pour foutre la merde à la fin de la rencontre. Il l'a déjà fait, Bray Wyatt, on sait qu'il aime bien faire ça, donc oui, ça peut être ça aussi. Pourquoi pas? En tout cas, là, c'est un des matchs que j'ai le plus envie de voir. Je suis hypé, je suis hypé.
Et globalement, le seul match et le match bien buildé, enfin, très bien buildé, on va dire, sur ce pay-per-view. Les autres sont, t'en as qui sont pas trop mal, t'en as qui sont pas du tout buildés, mais celui-là, c'est le vrai qui est vraiment bien buildé, quoi.
Eh ben écoute, je pense qu'on va pouvoir à nouveau en parler puisque papy, c'est le mot de la fin. C'est l'heure du top, du flop et de la note sur ce SmackDown. Mais restez connectés juste après, on vous fait une petite séance prono pour Clash of Champions. Mais là, sur ce SmackDown, papy, quelle est ton opinion? Dis-nous tout.
Alors, sur ce SmackDown, j'ai un peu de mal à trouver. Alors, le top, je le donnais à Roman, le chef de tribu, qui est vraiment intense comme il faut, là. Ça pourrait être Nikki Cross, Nikki Cross, n'importe quoi. Alexa Bliss juste derrière, mais Roman, je le trouve au-dessus sur ce SmackDown, là. Donc, très bon, très bien intense et très, très bien travaillé. Comme le vocabulaire, les actions, tout est bien dans ce personnage de chef de tribu. Mon flop, du coup, mon flop, pop, 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 qu'est-ce que je peux redonner en flop? J'ai pas de choses qui ont pas été terribles, notamment le revival de la. Enfin, j'en ai trois en fait de flop. Donc entre le revival de Corbin versus Riddle qui était pas terrible, mais bon, le match était pas mal, donc je vais le sauver. Et derrière, est-ce que je vais le donner à Bayley? Mais j'ai déjà donné à Sacha la semaine dernière, donc non. final, je vais le donner pour Otis qui devait régler son histoire de Money in the Bank cette semaine et qui a rien fait. J'aime pas quand on nous promet un truc qu'on fait pas.
Ouais.
Donc, sanction pour Otis et la mallette. Enfin, c'est plus le segment tout autour de la mallette, on va dire, pas Otis particulièrement. Et ma note, du coup, comme je disais, il y a. Là, on va faire simple. Il y a quoi? Il y a combien de matchs pour Money in the Bank là, sur pas Money in the Bank, n'importe
Clash
quoi.
Of Clash of Champions.
Pour SmackDown, il y en a 3, je crois. Il y a les filles, les garçons, l'US et non, Tag Team. 4 de coup. Les filles, j'ai pas trop ça bien buildé. Le Tag Team, je m'en fous. Le Triple Threat Intercontinental, je trouve ça pas mal buildé. Et Roman Reigns, j'ai trouvé ça bien buildé. Donc l'un dans l'autre, je pense que ça vaut bien un 2,5. Voilà pour ma note.
Eh ben écoute, c'est la note que j'avais pensé mettre, mais j'ai été un peu plus sévère. J'ai dit 2,25. Parce que c'est la veille d'un pay-per-view, mais j'ai trouvé que c'est ça, SmackDown, c'est peut-être le contraste avec Raw, mais on dirait qu'il n'y a pas de beaucoup de matchs, quoi. Et là encore, le main event catchesque, c'est Bliss versus Evans, quoi. Il n'y a rien avant, enfin il n'y a rien après. Après, il y a Corbin, Riddle qui était pas mal, mais ça fait vraiment peu de matchs. Donc 2,25 parce que j'aime bien avoir des matchs de catch quand même. Moi, mon flop, je le mets à Bailey. J'étais pas la semaine dernière, donc j'ai aucun problème à le donner à Bailey pour cette promo qui ne disait rien. Et par contre, mon top, là, je vais être obligé de te suivre, mais je vais le mettre plus globalement à cette interaction Samoan, vraiment de la fin, hein, parce que le clip m'a pas paru terrible. Mais j'ai bien aimé Jey Uso aussi, quand il nous a dit, j'en ai marre d'être le jumeau et tout. C'est vrai, hein, qu'est-ce que c'est que la carrière d'un Jey Uso individuellement, personne ne sait les reconnaître, moi-même je ne saurais pas dire s'il y en a un des, pourtant je les ai suivis depuis le début, je ne saurais même pas dire s'il y en a un des deux qui est meilleur que l'autre sur le ring ou s'ils ont des trucs un peu différents. Donc il y a une idée, je ne sais même pas lequel est marié à Naomi, ça doit être lui, je ne sais plus, non c'est peut-être l'autre, je m'en fous.
C'est peut-être l'autre,
bref. Donc... c'est facile hein, de dire de la part d'un jumeau qu'il a envie d'être le seul à gagner, mais c'était bien. Et Roman Reigns, patron de la tribu, là, on le voit, hein, je le vois bien sortir de sa case là avec son gros tatouage et aller nager pour aller tuer du requin, ou je sais pas trop ce qu'on fait aux îles Samoa, j'ai peut-être du cliché, mais j'ai vu un film avec The Rock et Roman Reigns où ils allaient aux îles Samoa, et du coup je me suis dit que je connaissais la situation.
Ouais, non, c'est sûr, ils vont juste travailler normalement dans un bureau avec des chemises et des cravates comme tout le monde, quoi.
Ah, peut-être, ouais, t'as raison. Mais des grosses chemises quand même, parce qu'ils sont costauds en général, les Samoans.
Ah, c'est du XXL.
Ah, voilà. Allez, papy, je te passe la main. Clash of Champions, les pronos. Est-ce que vous avez été nombreux sur Discord à nous donner vos pronos? Oui, vous avez été nombreux, ce qui fait qu'on va pas pouvoir lister les pronos de chacun, malheureusement, excusez-nous. Mais merci à tous les participants et les participantes. Papy a travaillé dur pour vous faire des calculs statistiques, comme le statisticien d'AJ Styles, et pour nous dire ce qui ressort, quelles sont les cotes. Comme ça, vous allez pouvoir parier tranquillement chez vous, faire votre petite grille. Alors, papy, l'affiche, les pronos, et puis on va peut-être donner nos avis à nous, puisqu'on on est là, on a le micro.
Ça marche.
Soit la voix des voiceless, dis-nous ce qu'on vous a pronostiqué sur Discord.
Je vais le dire tout de suite. Alors, on va remercier d'abord les participants. Donc, Irem, Ringside, Geliel, Zygote, Silence Slaughter, Bébé Luc, Zeltexienne, Kyrias et Tonton, bien sûr, qui étaient là pour clore les votes. Et donc, on va démarrer par un match qui sera en pré-show. C'est le Asuka versus Zelina Vega. Match pour le titre Woman de Raw. Donc là, c'est simple, en fait, quasiment tout le monde a voté pour Asuka, hormis Zygote qui a voté pour Zelina Vega. Et je vous avouerai que je ne vais pas suivre Zygote et que je vais voter moi aussi pour Asuka, parce que globalement, ça fait partie des matchs dont je pense qu'ils ont été mis là juste pour avoir un match pour le titre féminin.
Ouais, j'ai le même ressenti. On va rester dans les 90% des gens qui sont d'accord.
D'accord, donc on va vite passer au suivant. Alors je vais pas suivre le même ordre que de Géliel parce qu'il part directement sur le titre majeur. Moi je vais partir plus sur le titre mineur.
Ah oui,
on va aller sur un Bobby Lashley versus Apollo Crewser où quasiment tout le monde voit Lashley vainqueur. On a deux exceptions, Tonton qui voit Apollo Crews s'imposer. Alors là, n'importe quoi Tonton je pense, mais bon c'est pas grave, t'as le droit de voter Apollo Crews, je t'en veux pas. Et Irem qui lui voit un no contest suite à une intervention de Retribution. Il semble pas bête, étant donné que Retribution est en plus ou moins en feud avec le Hurt Business. Et donc, ça me fait hésiter quand même. Mais bon, je vais rester sur Lashley parce que Retribution a l'habitude de ne pas se pointer un pay-per-view. Donc, du coup, je considère qu'ils ne vont pas pouvoir arrêter ce match-là. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi.
Moi, je pense Lashley parce que même si l'hypothèse de Yérem est intéressante, je me dis qu'un no contest ouvre forcément la voie à un autre match alors que Apollo Crews a plus sa place. Donc même si Retribution vient, je pense que c'est à la fin du match, une fois que Apollo Crews aura pris sa Nelson et aura tapé comme un petit perdant.
Ah, c'est pas bête du tout. Alors, qu'est-ce qu'on va voir comme match derrière? Bon, alors, je vais remonter dans l'autre sens du coup. Bah, on va rester à Raw, un petit match tag team. Donc, la tag team, je m'en fous. Mais il faut quand même que je présente ce match qui opposera donc les Street Profits face à une équipe qui n'existe soi-disant plus, Andrade et Garza. Alors là, c'est un peu plus réparti ce vote-là parce que bon, la majorité va voter pour Andrade et Garza. On a quand même trois personnes, Géliel, Xel Texen et Kyrias, qui ont décidé de voter eux pour les Street Profits. Moi, sincèrement, je pense que que finalement les Angel Garza, au moment où ils sont, et Andrade, au moment où ils sont plus bas, c'est là où ils vont prendre la ceinture. Je ne serais même pas étonné que Zelina, finalement, après avoir vesti de LHA, revienne pour faire un petit entourloupe et leur permettre de gagner. Voilà, c'est mon avis là-dessus. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi.
Eh ben, ça me paraît une hypothèse très probable et je vais me ranger derrière, même si j'avoue que même s'ils n'ont pas beaucoup catché et qu'ils ont fait des feuds un peu bizarres, je trouve que les Street Profits sont quand même des beaux champions. Ils tiennent le micro, ils sont souvent là, ils ont une présence, hein, c'est une belle équipe. Maintenant, je sais pas, est-ce que Garza et Andrade, il faut en faire des champions ou il faut les séparer, je sais pas, mais moi je prendrais cette option-là. Et les Street Profits seront champions plus tard, une autre fois dans leur vie. Ils ont tout le temps, ils ont à SmackDown. Mais ils auront fait un beau run, même s'ils perdent, je trouve.
Ouais, ou alors ils peuvent reprendre la ceinture plus tard.
Oui.
Finalement, c'est ce qui s'est passé avec les Usos et les New Day, on en parlait tout à l'heure. À un moment, ils n'étaient plus qu'à deux, mais comme ils faisaient des super matchs tout le temps, puis qu'ils échangeaient souvent les ceintures, c'était comme plaisant de les suivre, quoi. Donc,
Ah oui.
j'aimerais bien ça serait bien finalement que Andrade et Garza ils restent ensemble pour pouvoir construire une espèce de dynastie de la tag team. Faites mon petit
Allez.
plaisir, messieurs. Autre match, on va repartir en solo et on va partir du côté du show bleu. Puisque là, on va partir sur la ceinture intercontinentale entre Jeff Hardy, AJ Styles et Sami Zayn. Et alors là, c'est un peu le bordel parce que beaucoup de gens ont voté pour Sami Zayn. Nous avons deux exceptions. Zygote, qui lui voit bien Jeff Hardy. Et Bébélu, qui imagine que AJ Styles, qui n'a aucun titre, va récupérer les deux titres d'un coup.
Non.
Ouh, beau, beau vote, Bébélu. Moi, j'hésite, hein, parce que là, tu vois, j'étais parti sur Sami Zayn en me disant, de toute façon, vu qu'il chiale tout le temps, c'est très bien que celui qui a la ceinture. Mais en même temps, vu qu'il a gagné le match juste avant et que Jesse a décroché les ceintures, je me demande si Jeff Hardy va pas remporter la timbale. Allez, je vais suivre Zygote et je vais partir sur Jeff Hardy, histoire de changer un petit peu.
Eh
Qu'est-ce
bien
que t'en
moi, je
penses?
pense Jeff Hardy aussi, ouais. Je vois ça un peu comme un moyen de sceller son règne qui commence, puisqu'il est quand même booké très fort par la WWE ces temps-ci. Il capitalise pas mal sur Jeff Hardy. Et les deux autres, bon, AJ Styles, on se fait pas de soucis pour lui. Sami Zayn, je ne sais pas trop ce qu'il pourra faire ensuite. Mais moi, je vois bien Jeff Hardy. Mais je crains, comme on l'a dit, je crains le no contest et l'égalité. Il y a deux ceintures et c'est le bordel. Ça me plaît pas trop. J'ai un peu peur.
Ah, si jamais c'est ça, je pense que j'aurai une boule au ventre, mais et du coup, ça va être un peu compliqué après à suivre. Mais bon, à propos de ce qui est sûr et qui est compliqué, on va repasser sur ma division préférée, la division tag team,
Ah, oui.
avec quand même Cesaro Nakamura versus la Lucha House Party là. Là, sincèrement, c'est Lucha House Party, c'est pas des gars qui déconnent. Et d'ailleurs, ils déconnent tellement pas que Sergeant Slaughter a voté pour eux. Ah, c'est le seul, hein.
Oh,
Je veux pas te dire
d'accord.
la vérité, c'est le seul à voter pour eux. Tout le monde vote Cesaro Nakamura. Moi, je vais suivre la majorité parce que Lucha House Party, autant les Andrade et Garza, j'espère qu'ils vont rester ensemble, autant la Lucha House Party, je m'en fous un peu. Et puis, je m'en fous un peu. À la limite, s'ils pouvaient virer Kalisto qui part en solo et qui reste les deux autres ensemble, ça serait pas trop mal. Donc, je sais pas ce que t'en penses, toi.
Oui, comme c'était avant, quoi, en fait. Oui.
Exactement, voilà.
On remarque que Sergent Slaughter, si vous êtes sur le Discord, il assume très peu son vote, puisqu'il écrit LHP pour abréger Lucha House Party. Il n'ose même pas nous la dire en entier.
J'ai eu du mal à comprendre.
Ouais, non, moi je vote Cesaro et Aya Nakamura, puisque j'ai mis ça avec beaucoup d'humour. Je m'auto-fais rire quand je me relis. Non, c'est. Bon, les champions vont garder la ceinture, oui, évidemment.
Voilà. Mais par contre, il faut quelques changements quand même. Alors, est-ce que le changement sera dans le match suivant? Ah, c'est possible parce que là, c'est très partagé les votes. Ce sera toujours de la tag team, mais féminine, entre Nia Jax et Shayna Baszler versus le Riot Squad. Et donc là, c'est très partagé, donc je vais vous le dire carrément. IRM, Serlan Slaughter, Bebelu et Kyrias pensent que c'est le Riot Scott qui gagne. Ringside, JLL, Zygote, Zeltexien et Tonton pensent que c'est Jax et Baszler qui vont s'imposer. Et moi, je suis très partagé parce que, comme je disais, il y a très peu de ceintures qui changent. Donc, ça serait peut-être le moment de mettre les billes sur Riot Squad. Mais d'un autre côté, moi, mon choix du cœur, ça serait que Jax et Baszler restent ensemble pour faire un peu, pour rouler un peu sur toutes les divisions de tout le roster de la WWE. Quoi. J'aimerais bien les voir voyager, ces filles-là. Donc, je vais écouter mon cœur, à défaut d'écouter mon cerveau, et je vais voter pour Nia Jax et Shayna Baszler. Et toi, est-ce que tu as un cœur, est-ce que tu as un cerveau?
J'ai les deux, mais là ils sont pas trop, ils sont plutôt d'accord dans le sens où le Riot Squad, j'ai beaucoup beaucoup de mal à les apprécier et à y trouver de l'intérêt. Donc pour moi c'est évident que Jax et Baszler vont leur rouler dessus. J'ai beaucoup aimé hein, les deux affrontements des nouvelles championnes contre Bayley et Sasha. Elles ont envoyé, on aurait dit un peu la domination des feux Authors of Pain là qui ont tout détruit. Le seul truc sur lequel je pourrais t'accorder raison, c'est que je vois pas du tout Zelina Vega rester dans la title picture de Raw longtemps, et donc il va bien falloir quelqu'un pour Asuka. Et donc ben, Baszler et Nia Jax sont plutôt les prétendantes naturelles à Raw, à moins qu'il y ait un peu de changement à Raw.
Ouais, c'est compliqué la division féminine de Raw. Hein.
C'est ça qui m'intrigue. Ouais, mais c'est vrai, j'aimerais bien. Après, je sais pas si j'aimerais voir Nia Jax et Shayna Baszler rouler aussi sur NXT, parce qu'à NXT, souvent, pour ce titre féminin, ça sert juste à rouler, à se faire rouler dessus. Donc. Mais non, quand même, Nia Jax et Shayna Baszler, je vois pas, à moins d'une grosse mésentente et qu'elles se mettent vraiment à se mettre sur la gueule, mais comment elles peuvent prendre un pin l'une ou l'autre de Ruby Riot, quoi. Non, j'espère pas.
Ah, ouais, c'est... effectivement, je suis d'accord avec toi, en plus, le finish de Ruby Riot, il est quand même vachement laid, l'espèce de pied dans la tronche, là. Bref, on peut juste annoncer qu'elles ont certainement des jolis vêtements à carreaux, les Riot Squad, comme depuis quelques temps.
Accordé.
Accordé, tout à fait. Ce qui est déjà pas mal. Bravo à elle. Un match très disputé aussi dans les votes. Vous allez être ébahis par la répartition de ces votes. C'est Bayley versus Nikki Cross. Donc pour le titre féminin de SmackDown. Et là, c'est vraiment partagé puisque Irem a voté Bayley, Yringsal a voté Bayley, JLL a voté Bayley, Zygote a voté Bayley, Sergent Sauter a voté Bayley, Bebelu a voté Bayley, Zeltacien a voté Bayley, Kyrias a voté Bayley, Tonton a voté Bayley. Et je vous annonce que Papy a aussi voté Bayley. Et qui a voté Raphaël?
Eh bien, Raphaël a voté Bayley. Mais voilà. La possibilité d'une disqualification par Alexa Bliss que nous avons évoquée remet tout en perspective, mais trop tard, messieurs dames, vous avez pronostiqué. Mais c'est oui. Vrai que ça serait la seule. Nikki Cross ne sera pas championne, j'en suis sûr. Après que officiellement elle remporte le match, si son ancienne copine l'attaque, peut-être. Mais parce qu'on a déjà, eu hein, des Bayley versus Nikki Cross, on en a eu. Et du coup que cette affiche ressorte, je vois pas trop l'intérêt à part qu'il se passe quelque chose pour Nikki Cross.
Elle sera attaquée par il y aura une intervention de Bliss en fait. Je pense que les feux croisés vont repartir chacune de leur côté après ce pay-per-view. Moi je vois comme ça en tout cas.
Mais c'est vrai qu'avec Bliss qui est un peu explosive, on peut pas savoir qui elle va attaquer, de quel côté, avant, après, pendant. C'est le petit doute. Donc peut-être les votes pas si unanimes que ça.
Ça hein. Peut être un DQ mais de n'importe quel côté en fait. Avec ça. Bliss c'est pas gagné. Hein.
Exactement.
Et est-ce qu'il y aura un DQ dans le match suivant, puisque Reigns versus Uso, tout le monde a voté Reigns. Est-ce que je vais voter Reigns? Parce que maintenant que j'en parle, je me dis c'est peut-être la disqualification en trichant de Reigns pour bien montrer qu'il est heel. Ah, je veux dire qu'il va tricher, mais sans se faire voir. Allez, donc je vais voter Reigns quand même.
Ouais, moi je vote Reigns parce qu'il a juste gagné le triple threat où il est arrivé en plus après 20 minutes de match, donc c'est quand même un peu limite. Il continue d'être heel, mais je pense qu'ils vont plus jouer la carte du heel gros destructeur comme il a été là, qui laisse pas de pitié, plutôt qu'un heel qui triche ou qui pète des plombs. Mais par contre, j'espère un beau match. Vraiment, j'ai lu quelque part sur Discord Reigns Uso, ça sera 1 minute 30. Non, j'ai pas envie. Jey Uso mérite mieux que ça. Le public mérite mieux que ça. On vaut mieux que ça. Et voilà, donnez-nous un beau match. Peut-être pas 25 minutes, mais allez, 15 minutes, je pense qu'il y a moyen. Quoi.
On peut. Après, faut voir. Alors, je suis d'accord avec toi, je partage ton avis. J'aimerais bien que limite Uso résiste jusqu'au bout de ses forces pour montrer vraiment qu'il est résistant et que Reigns n'est plus aucune pitié. Mais je me demande si Reigns est capable de faire un long match en fait, vu qu'on l'a toujours pas revu, un long match de son retour.
Ça fait longtemps, ouais.
Donc,
Hyper intéressant.
ça ferait vraiment plaisir qu'il fasse un 15-20 minutes là.
Ouais.
J'espère ne pas me tromper. Et donc, il nous reste un match. Un
Et
match,
oui.
jamais 203. Drew versus Randy. Tout le monde a voté Drew. Tout le monde, non. Deux personnes résistent encore et toujours à l'envahisseur écossais. Ce sont Xeltexian et Tonton. Tonton, qui a lâché son bel homme et qui a voté Randy Orton. Moi,
Oh.
je ne le suis pas. Je pense que Randy, il est out depuis qu'il s'est exposé par Keith Lee. Et donc, du coup, je vote sans aucun doute pour Drew McIntyre. Qu'en
Et on note
penses-tu?
que Xen a même marqué entre parenthèses pari facile. Mais que veut nous dire cette personne? Est-ce de l'humour? Est-ce de l'ironie? Est-ce du second degré? Nous sommes perdus. Moi, je pense que Drew va gagner, mais c'est compliqué quand même. Parce que c'est vrai que Randy Orton s'est fait squasher par Keith Lee, c'est assez bizarre. Mais en même temps, on en parle très peu. Même Drew, personne ne rebondit en fait là-dessus. Randy Orton, je trouve qu'il marche sur les eaux en promo, en weekly. Là, il est énorme. Je trouvais sa promo à Raw monstrueuse. J'ai envie de dire, un mec qui fait une promo comme ça, enfin, je veux dire, après 20 ans de carrière, qui arrive à qu'on se dise, putain, il est vraiment au top de son game, alors que ça fait 20 ans qu'il est champion du monde très souvent. Je me dis, limite, ça mériterait un run. Ouais, quand Randy nous parle de son 14e titre et tout, je me dis, bah. On est en 2020, Randy, il est vraiment en fin de carrière. Si on lui donne pas un dernier titre maintenant, quand est-ce qu'on va lui donner, quoi? Il a jamais été si proche là, depuis des années. Mais en même temps, il a été très méchant, il a été pas gentil du tout. Il a trahi Ric Flair, il a fait quelques conneries et je le vois bien. Bah voilà, les ambulance match, souvent c'est les gentils qui gagnent. Hein, c'est John Cena qui envoie Kane à l'hôpital, tout ça. J'ai du mal à avoir Randy envoyé Drew McIntyre dans l'ambulance. Donc je vais voter Drew McIntyre, mais je suis mitigé et je pense bien que dans la foulée, Randy Orton est le genre de gars à faire un match en cage.
Ah.
Mystère, mystère. Mais bon, Drew McIntyre quand même, parce que si Papy lâche le, si Chris lâche le bel homme, non, non, moi je reste fidèle à l'Écossais.
Voilà, il faut pas abandonner, il faut rester solidaire. Et donc, c'est terminé pour la carte de Clash of Champions.
Et ben voilà, et ben merci papy pour cette démonstration de la carte et pour ce détail des pronos. Bravo, t'es très honnête papy, tout est maintenant sous contrôle d'huissier, on verra qui gagne. Rendez-vous après dimanche. Et ben merci à vous, à toutes et à tous de nous avoir suivis sur cette review. J'espère que ça vous a plu, que vous êtes d'accord avec nos avis ou pas. Et sinon, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On peut se retrouver pour ça sur le Discord, on en a parlé, sur Instagram, Facebook ou Twitter avec Ketchup CDC. Et pour nous écouter, toujours iTunes, PodCloud et Spotify, Ketchup. Laissez-nous bien sûr vos avis pour qu'on s'améliore, qui sait, qu'on progresse, des nouveaux pronostics, vos opinions sur Bayley, Roman Reigns ou encore King Corbin. D'ici là, ben moi je remercie mon ami Papy, pardon, oh, j'ai du mal, mon ami Papy qui a été avec moi ce soir. Merci le monsieur Prono du catch, ce fut un plaisir.
Et merci Raphaël, merci d'avoir hosté cette émission de grande qualité.
Ah, merci, ça fait plaisir. Je ne sais pas si nous étions autant de qualité que SmackDown, mais on fait au mieux en tout cas.
Et merci à nos milliers d'abonnés sur YouTube. Ça
Et
fait
oui,
plaisir.
ça y est, on a passé le 1K, comme disent les jeunes, 1000 abonnés. Et bien continuez, likez, partagez, faites-nous connaître. Et du coup, bientôt, on sera 2000, 3000, 1 million, 7 milliards, on l'espère. En arrivant là, ben, d'ici là, moi, je vous dis à très bientôt. Bon week-end, plein de catch, bon Clash of Champions, bonne chasse à l'or. Et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao papy, ciao tout le monde.
Salut à tous!
Et salut peuple de Ketchup! On n'a pas le timbre de voix de papy, hein.
Tonton.
Tonton. Oh, zut. Grand frère, parrain, cousin. C'est compliqué en ce moment, les familles.
Ouais, beaucoup de familles.